Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Durant la deuxième moitié du XVIe siècle, la réforme apportée par Martin Luther secoue l'Église de Rome. Un vent de folie se met à souffler parmi le peuple. Le diable apparaît partout. En 1566, à Noyon, dans l'Oise, une jeune fille nommée Nicole Aubry est convaincue de possession démoniaque. C'est l'occasion rêvée pour l'évêque de Noyon de prouver que seuls les catholiques détiennent le pouvoir de chasser les démons. Suivez-moi dans cet épisode inédit en deux parties pour une terrible séance d'exorcisme en plein cœur de la cathédrale de Noyon. Des greffiers présents ce jour-là, comme dans tout exorcisme, nous en ont laissé le témoignage très vivant que voici. Ce jour-là, il faut la force conjuguée de plusieurs hommes pour porter Nicole Aubry à la cathédrale. Il y a son mari, ses deux oncles et même des gardes. En chemin, la jeune fille interpelle la foule des curieux qui accompagnent le cortège. Elle a décidé de dire à chacun ses quatre vérités. « Toi, tu as été battu parce que tu n'as pas nettoyé les souliers de ton maître. Et toi, si tu ne veux pas être corrigé, ne casse pas la vaisselle !» Au passage de la jeune femme, les mères plaquent leurs mains sur les yeux de leurs enfants. D'autres, au contraire, s'avancent au plus près d'elle pour mieux la dévisager. Pour Nicole Aubry, la pauvre fille, c'est horrible. Elle hurle, elle bave, elle se contorsionne, elle ricane. Elle agite furieusement la tête de droite à gauche. Quand elle adresse la parole à tel ou tel, sa langue, enfin c'est ce que nous dit la chronique, est tirée à un demi-pied sous son menton. Et au milieu des spasmes, elle révèle les secrets de chacun, semant la zizanie sur son passage. Dans la foule, on entend d'ailleurs certains déclarer qu'elle est complètement folle. Enfin, les voilà au pied du parvis. La cathédrale luit alors des feux du dernier soleil. L'astre frappe encore le fouillis des sculptures qui garnissent les corniches. Ces sculptures hiératiques, manifestes lapidaires de l'art du XIIe siècle, sont comme un pont jeté entre l'effervescence médiévale et la sévérité des poses byzantines. C'est un soleil d'hiver dont les rayons d'escarboucle viennent se jeter sur la neige, avide de tout consumer. Je rappelle que l'escarboucle, c'est le nom ancien des grenats et des rubis. Une vapeur fébrile sort alors de chaque bouche. Le mari de la folle est en larmes. Vite, il faut faire entrer la bête fauve dans la nef, apprêtée pour l'événement. En voyant la façade de la cathédrale, Nicole Aubry, elle, est entrée dans une fureur incontrôlable. Sans doute a-t-elle aperçu la sculpture de l'archange Saint-Michel qui orne le fronton d'une des arcades et qui écrase de son pied la tête d'un dragon. Dans moins d'une heure, ce sera la nuit. Déjà, les archivoltes s'enfoncent dans les ténèbres comme dans un puits. Au-dessus des porches latéraux, des figures étranges ornent les fenêtres. Ce sont des monstres à corps d'oiseaux et à queue de poisson, des corps d'hommes contorsionnés qui font écho à la scène qui se déroule 100 pieds plus bas sur le parvis. Les tours de la cathédrale, gardées par 8 bœufs de pierre qui rappellent la participation des animaux à leur édification, adressent un ultime salut au jour. Déjà au tympan de la porte centrale, la Trinité a disparu, engloutie dans l'obscurité. Tandis qu'à l'intérieur, on se relaie pour porter la malheureuse. Elle pèse comme un animal mort, elle se débat. Les premiers volontaires, ceux qui ont extirpé la fille de sa chambre, sont désormais épuisés. Ils prennent appui sur leurs genoux, ils reprennent leur souffle et les volontaires accourent. Il faut prendre garde de ne pas blesser Nicole Aubry. Il faut aussi se protéger de ses coups. La veille de cette scène terrible, elle a assommé un chien d'un coup de poing. Et par-dessus tout, évidemment, il faut la protéger d'elle-même. Une femme la suit du regard en se signant. Elle récite des prières. La stupeur et la désolation se lisent sur les visages et dans les regards. Nicole Aubry est une fille si jeune, si pieuse, si belle, si obéissante, si pure, si sainte. On regarde avec colère ceux qui semblent ne pas la connaître.
Comment, mais vous ne savez pas? C'est la petite Nicole, Nicole Aubry, une fille de Noyon, notre fille à tous.
Un mois plus tôt, le 24 janvier 1566, le chapitre du diocèse de Lens est réuni en conseil extraordinaire. On a annoncé la venue d'une jeune femme originaire de Vervins, tout près de Noyon. C'est l'épouse d'un certain Loïs Pierret, couturier de profession. L'état de la jeune femme réclame l'administration urgente d'un rituel délicat, l'exorcisme. Nicole Aubry a 16 ans. Depuis quelques mois, son comportement suscite inquiétude et effroi. Elle est régulièrement prise de spasmes. Quand cela arrive, elle semble étouffée. Elle se balance d'avant en arrière, puis elle se retrouve jetée violemment à terre, puis elle tombe, toute roide et dure comme une bûche, les yeux fixes et exorbités, raconte-t-on. Pour commencer, des prêtres ont été dépêchés à son chevet. Mandatés par le doyen du chapitre de Lens, ils ont déjà opéré sur elle toutes sortes de sacrements, d'aspersions d'eau bénite. Sans succès. Aucun des exorcismes déjà pratiqués n'a délivré la jeune femme. Pensez-vous, même ceux administrés par Jean de Bourg, évêque du diocèse, n'ont pas eu d'effet. Au contraire, il semblerait que la malheureuse n'ait jamais été aussi furieusement tourmentée. Et son cas inquiète désormais un cercle plus large. Dans l'église de Vervins, durant l'une de ces crises, des pierres se sont détachées de la voûte. Elles ont gravement blessé des paroissiens venus assister terrifiés aux contorsions et aux hurlements démentiels de la possédée. Personne n'a oublié non plus ce jour où, mugissant comme 40 taureaux, elle a fait voler en éclats les vitraux de l'église de Liesse. Depuis, toutes les précautions d'usage ont bien été prises, expertise par des médecins, puis interrogatoire interminable. On a cherché à déceler l'éventuelle présence d'une maladie qui expliquerait de pareils symptômes. Puis, le verdict est tombé. Implacable. La jeune fille est consciente lors de ses crises. Elle répond aux questions de façon rationnelle et construite. Lorsqu'elle parle, sa langue, monstrueusement étirée jusqu'au cou, s'agite frénétiquement et ses convulsions nécessitent la force d'une dizaine de personnes pour la maîtriser. En urgence, le chapitre a dû décider d'un lieu d'hébergement dans la ville pour la malheureuse. Car chacun, bien sûr, s'est dérobé. Héberger le démon, hors de question. On a donc décidé dans l'urgence de la loger dans l'hôtel des Pourcelets, une ancienne demeure de prêtre aujourd'hui abandonnée. Dans les rues de Lens, aux abords de la cathédrale, on regarde désormais passer la possédée avec un certain effroi. Certains s'interrogent. Si l'on a été incapable de la délivrer à Vervins, pourquoi aurait-on plus de succès à Lens? L'évêque Jean de Bourg s'en est expliqué. Le petit peuple catholique de la région est en danger. C'est la réforme qui infeste les esprits. Si au sein même de l'église, mère du diocèse, l'évêque mandaté par Rome parvient à délivrer la possédée au moyen des sacrements de l'église une et indivise, alors les protestants seront confondus. Son message adressé à chacune des paroisses du diocèse s'achève ainsi.
Il est à propos de présenter cette tragédie sur un grand théâtre et de donner à tous ceux qui seraient soigneux de leur salut le temps de se rendre à Lens pour y être spectateurs d'une action si merveilleuse et de ce grand triomphe du Saint-Sacrement sur le démon.
Des dizaines de milliers d'habitants se sont donc mis en route pour Lens en prévision du grand jour. Pour ne pas risquer de manquer une telle démonstration de puissance de l'hostie, juché sur l'unique promontoire rocheux d'une plaine immense, Notre-Dame de Lens attire le regard de très loin. Saint-Rémy, l'évêque qui baptisa Clovis et ses 3000 guerriers francs, en avait posé la première pierre. Il avait érigé Lens à la dignité de diocèse. La petite ville était devenue, au fil des siècles, la première capitale de l'Empire, bien avant Paris. Ce soir-là, on fait entrer Nicole Aubry directement dans la nef. Pour les spectateurs, il suffit de lever les yeux et c'est le royaume de Dieu qui vous aspire par les voûtes vertigineuses. 900 pieds de pierres ciselées qui se rejoignent en un point inaccessible aux hommes. La cime incommensurable d'arbres qu'une illusion seule conduit à se rejoindre là-haut, plus près des étoiles que des hommes. On marche désormais vers le transept, piétinant sans égard la pierre tumulaire où sont sculptés les visages de tous les dignitaires ecclésiastiques enterrés là, sous la pierre, témoins muets des prodiges et des catastrophes dont la cathédrale a déjà été le siège depuis un millénaire. Devant le grand autel, un échafaud a été monté en manière de théâtre selon les instructions de Jean de Bourg. L'évêque jeûne depuis 10 jours pour purifier son cœur en compagnie de Christophe de Héricourt, doyen du chapitre et du chanoine d'Épinois, qui est aussi médecin. Sur l'échafaud, on a disposé des coussins et des oreillers qui sont destinés à accueillir l'infortuné. Les hurlements de Nicole font désormais trembler les vitraux. L'évêque est abîmé dans la lecture d'un grand bréviaire. À présent, la foule des fidèles a rempli la nef. Tous sont saisis d'un mélange de terreur et de curiosité. Frissons venus d'outre-monde, atténués sans doute par l'habitude de vivre depuis tant d'années une succession d'épisodes merveilleux et d'histoires horribles. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre plateforme préférée pour écouter la seconde partie de mon récit consacré à cette terrible séance d'exorcisme. Et pour ne rater aucun épisode d'Au cœur de l'histoire, suivez-moi sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. À très vite.